La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il s'agirait d'une nouvelle matière première. La métaphore minière ne trompe pas. Après la détection des gisements, il deviendrait désormais possible de les extraire comme on exploite une mine. D'ailleurs, rarement à ciel ouvert, plutôt à l'intérieur de grandes boîtes noires, bien opaques et de préférence cadenassées à double tour. Data mining, l'expression a fait florès pour désigner cette nouvelle activité, tout à la fois économique, sociale et politique. Les big data seraient devenus les diamants gros comme le Ritz de la nouvelle économie. Pourtant, les données n'ont rien de nouveau, notamment pour les sciences sociales qui ont appris depuis longtemps à les traiter. Ce qui apparaît nouveau, c'est peut-être leur commodification à grande échelle, rendue possible par des progrès rapides dans le domaine des technologies de l'information et par le développement, bien sûr, de l'Internet. La place centrale, occupée dans les discours comme dans certaines pratiques par l'exploitation de ces grosses données, interroge au moins à double titre les sciences sociales, comme réalité à analyser et à comprendre, mais aussi comme outil éventuellement à utiliser. Ce sont ces questions qu'un colloque a posées voici quelques mois au Collège de France et qui donnent lieu ces jours-ci à la publication d'un passionnant ouvrage collectif « Big Data et traçabilité numérique ». Bonjour Pierre-Michel Menger.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur au Collège de France, où vous êtes titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, et vous publiez sous votre direction et celle de Simon Paille, Big Data et traçabilité numérique, donc les sciences sociales face à la quantification massive des individus. Alors ce livre est issu d'un colloque, mais ce sont des textes retravaillés et je dirais mis à jour aussi en fonction d'une actualité extraordinairement rapide sur ces questions. Des questions qui sont pensées depuis un certain temps par les sciences sociales, mais qui demeurent assez marginales encore, je dirais, dans la réflexion, d'où l'importance de ce livre collectif qui associe des chercheurs qui travaillent sur des objets assez différents et dans des perspectives très différentes les unes des autres aussi. C'est toute sa richesse. Dans la deuxième partie de la suite dans les idées, puisqu'il s'agit de croiser les regards, c'est un designer, David Bianic, qui nous rejoindra parce que j'aimerais qu'on pose la question de la visualisation des données. Une question fort ancienne, mais qui se trouve elle aussi posée à nouveau frais du fait de ce qu'offrent comme possibilité les techniques numériques. Désormais, la question du design d'information est particulièrement pertinente. C'est ce dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission. Je voudrais qu'on commence, Pierre-Michel Menger, par ce caractère de nouveauté. Enfin, peut-être pour se demander si c'est si nouveau que ça, ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette idée de big data? Est-ce que c'est le big qui est nouveau? Parce que les data, elles sont très anciennes.
Il y a deux considérations possibles. La première, c'est les data qui ne sont pas nouvelles sont des data qu'on sait structurer et qu'on sait exploiter parce qu'elles ont été formatées pour l'être. Et nous avons des outils logiciels, des tableurs, autrefois des livres de comptes, etc., qui étaient préparés pour un travail d'exploitation. Aujourd'hui, quand on parle de big data, ces données-là, qui sont de plus en plus abondantes, ne représentent que 5% de ce qu'on appelle les big data. 95% des big data, ce sont des données non structurées, des données qui sont engendrées par tous les actes qui sont numérisables. Votre déplacement dans un aéroport, vous passez votre passeport électronique, votre géolocalisation, vos achats en ligne, etc. Toutes ces données qui sont engendrées, ou l'utilisation de OK Google chez vous, qui vous surveille de tous les points de vue et qui vous rend toutes sortes de services. Toutes
ces données-là, OK Google, ce sont les petites boîtes, haut-parleurs, voilà, qui sont à commande vocale, mais qui enregistrent les faits et gestes en quelque sorte.
Et qui vous sert toutes sortes de services à domicile. Tout ça est enregistré. Tout ça, les entreprises qui ont leurs activités de toutes sortes, comptables, de transactions, d'échanges entre elles, d'échanges avec les clients. Tout ça, c'est une masse. Les administrations, c'est une masse considérable de données qui ont l'air d'être un gisement, mais devant lequel on est tétanisé aussi. On dit que c'est le nouvel Eldorado, mais en fait, on ne sait pas non plus tout à fait exactement comment traiter tout ça, parce que c'est une masse qui... Alors, deuxième point de vue, c'est une masse qui... Qu'est-ce qui est nouveau? Qui est dans un volume exponentiel, avec une vitesse fantastique. Ce sont des données qui sont engendrées de manière ultra rapide et qui peuvent être traitées quand elles sont bien formatées de manière ultra rapide et de plus en plus rapide. Ce sont des données incroyables extrêmement variée. Et la variété est là un défi aussi parce que les usages sont multiples. Et ce sont des données qui ont une valeur qu'elles n'avaient pas. La donnée, aujourd'hui, a une valeur. Elle a créé une nouvelle économie. C'est une révolution autant industrielle qu'économique et avec des aspects qui sont inédits.
Alors, si on se place dans une perspective historique, toujours pour essayer d'appréhender ce qu'il peut y avoir de véritablement nouveau. En relisant ces textes, je me disais au fond, est-ce qu'on est en train d'assister à une rupture aussi massive que celle qui avait été décrite par exemple par Emmanuel Didier dans son livre sur l'invention statistique de l'Amérique? On se rappelle que la crise des années 30 aux États-Unis a été aussi une crise de la représentation de ce qu'était le pays, notamment à commencer par les statistiques agricoles. Et c'est ce moment où on passe des enquêtes par tirage au sort, donc de la statistique de probabilité classique, aux sondages tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et au fond, on obtient des résultats plus pertinents. Mais la vraie différence, peut-être, c'est qu'à l'époque, ce sont des institutions, et des institutions publiques, souvent, qui vont produire ces nouvelles données, ces nouvelles manières de représenter une réalité sociale. On a l'impression aujourd'hui que tout procède par le bas et pour des intérêts pour certains acteurs économiques d'utiliser ces données et qu'on a affaire à quelque chose de totalement informe, d'immense et que le problème numéro un, c'est peut-être de remettre un peu de rigueur scientifique dans cet ensemble.
Alors, il y a premièrement le fait qu'effectivement, on peut tracer une généalogie de ces usages. C'est fait dans le livre. Par exemple, Franck Cauchois et Jean-Sébastien Vert montrent à quel point il y a un lien entre les opérations classiques de marketing et l'utilisation aujourd'hui de ces données. Donc, on peut établir une généalogie historique avec des ruptures d'amplification et de technologie, évidemment, qui modifient les règles du jeu. Mais à l'intérieur de cette généalogie, on peut voir aussi des bifurcations. Par exemple, les exemples que vous donnez des outils de la statistique classique, où les enquêtes même de marketing étaient des enquêtes qui étaient d'abord consenties, les individus devaient donner leur consentement, les enquêter, et deuxièmement, qui opéraient à travers des classes, des typologies, etc. Aujourd'hui, on est sur des mécanismes de profilage ultra fins et de granularité extraordinaire de la mesure des comportements, et deuxièmement, une mesure des comportements qui n'est pas consentie. Quand vous êtes sur un site et qu'on vous affiche l'autorisation d'utiliser les données personnelles.
Vous cochez une petite case.
Voilà, vous cochez une petite case après 4 pages ou 5 pages d'instructions ou de détails qui font peut-être la joie des avocats d'affaires et des avocats des cabinets juridiques. Mais vous ne prenez plus du tout le temps de le faire et ne voyez même plus quelle est la pertinence exacte de votre décision dans l'affaire. Donc vous cliquez et vous consentez automatiquement à une asymétrie d'information qui est gigantesque. Autrement dit, ce que vous faites, c'est de vous déplacer sur un monde qui est en dessous. C'est un iceberg. Vous cliquez, mais en dessous se déclenchent toutes sortes d'opérations dont vous n'avez rigoureusement aucune idée, qui peuvent rendre des services, ça c'est la contrepartie positive, mais qui vous prélèvent aussi de l'information sur vous-même, qui est la contrepartie consentie, mais dont vous n'avez absolument pas idée.
Alors ça pose des questions de liberté publique, de droit, qui sont notamment abordées par quelqu'un qui s'intéresse à ça et qui était venu en parler dans cette émission il y a quelques mois, Bernard Harcourt, qui est un juriste américain, qui est aussi directeur d'études à l'EHESS, et qui travaille sur cette nouvelle surveillance, en quelque
absolument.
Sorte.
Il est contributeur au volume. Il donne des exemples absolument saisissants des différents usages possibles de ces outils. Par exemple, comment une agence américaine avait voulu créer un Twitter cubain pour contourner les contrôles par le régime de l'information et donc créer une sorte de démocratie de l'opinion décentralisée. Il donne des exemples beaucoup plus redoutables encore qui sont le courtage des données. La donnée est une matière qui se négocie. Et les exemples sont terrifiants. Le prix 1000 noms de malades du cancer du pancréas valent plus cher que 1000 noms de malades d'un cancer qui est plus facile à soigner, du sein, etc. Et tout ça a été le produit d'un enregistrement de données, de profilage et de tarification derrière. C'est quand même extraordinaire. Et il cite une société qui brasse des trillions, comme on dit, c'est-à-dire des milliers de milliards de données et qui accumule ces données. Il y a derrière, évidemment, tout cet océan de données, il y a de multiples intermédiaires, de multiples acteurs qui se greffent dessus pour agir et pour extraire de la valeur, pour la revendre à travers une cascade considérable de transactions dont le premier producteur, c'est l'individu qui est au bout de la chaîne, mais dont il n'a aucune idée du tout, du tout. La chaîne de valeur est totalement opaque. Ça, c'est quand même extraordinaire.
Elle est très complexe parce qu'on a, affaire à des articulations économiques avec des situations de ce que les économistes appellent des marchés à double versant ou des marchés bifaces. C'est le cas particulièrement de la presse qui se vend à la fois à ses lecteurs et à ses annonceurs et qui, du coup, organise des échanges autour de ces données qui sont parfois extraordinairement complexes, Pierre-Michel Menguet.
Tout à fait, oui. On tarifie de manière parfois égale des usages qui sont totalement inégaux. Quelqu'un qui va surfer pendant une seconde sur un site sera considéré comme ayant été un usager qui sera tarifé au même prix à l'annonceur qui va mettre la publicité sur le site en question. Et il y a d'autres usages qui sont... Récemment, ma compagne m'écrivait de son site à NYU, qui est à l'université, qui est un site qui se sert des technologies de Google. Elle m'écrivait « J'aurais dû aller acheter ça chez Bloomingdale ». Elle n'y est pas allée. Une seconde après, elle recevait une publicité sur Bloomingdale dans un mail privé d'une institution universitaire. Et vous imaginez un peu la vitesse à laquelle tout ça se déroule sans que personne n'en ait la moindre idée. Simplement, vous avez le retour. Tout d'un coup, vous avez un effet de réel absolument incroyable. Mais cet effet de réel, alors, il va s'estomper dans le temps. Vous allez dire « Bon, ok ». Et puis voilà. Autrement dit, vous serez littéralement bombardé d'opérations dont vous n'avez pas idée et auxquelles vous allez vous accoutumer et vous allez consentir par une sorte d'habituation. Ça, c'est un vieux ressort de la technologie de la persuasion clandestine. C'est la vieille stratégie de la publicité. On se dit toujours, mais qu'est-ce que c'est que cette publicité? Moi, je ne veux rien en savoir. Le son est monté pour me persuader encore mieux, etc., etc., dans les radios. Et je suis immunisé contre cette publicité parce que c'est une intrusion. Mais cette affaire-là, c'est bien plus clandestin et beaucoup plus diffus qu'on le pense. Et avec les technologies dont on dispose aujourd'hui, on est à des années-lumière supérieures de puissance et d'efficacité, au moins pour un certain point de vue. On sait par ailleurs que toutes ces opérations sont des opérations où l'attention des individus est très volatile. Donc 20% des gens peuvent concentrer 80% de l'attention sur un fait qui est diffusé, etc.
Alors, la tâche des sciences sociales face à cette nouvelle réalité des big données, c'est d'abord de décrire, de comprendre des choses qui restent très largement dans l'ombre aujourd'hui, dont on n'a pas conscience, à la fois parce que un certain nombre d'acteurs sociaux n'ont pas l'intention de les rendre transparentes, mais aussi tout simplement parce que ce sont des choses d'une très grande complexité, oui, qui impliquent des relations sociales, économiques, juridiques, politiques, d'une complexité incroyable. Il faut beaucoup de temps, d'attention, de travail, de recherche pour être capable, ne serait-ce que de décrire la manière dont les choses aujourd'hui se coordonnent en quelque sorte pour produire ces données ou pour les exploiter, Pierre-Michel Menguet.
Oui, il y a là un aspect qui est tout à fait décisif. On peut dire d'un côté que, et on en a parlé, qu'il s'agit d'avoir une vigilance personnelle, de s'équiper personnellement pour chaque citoyen d'une conscience supérieure de ces enjeux, mais ça n'est pas simple. Pourquoi est-ce que ça n'est pas simple? Parce que de l'autre côté, il y a effectivement une asymétrie de connaissances. Il y a aujourd'hui une jeune génération d'entrepreneurs, d'inventeurs, d'ingénieurs, d'informaticiens qui détiennent des savoirs sur ces opérations-là que personne d'autre n'a et qui sont concentrés dans des entreprises qui ont des caractéristiques tout à fait extraordinaires. Vous pouvez avoir une entreprise aujourd'hui qui a 300 personnes et qui fait des dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Autrefois, l'industrie automobile à Détroit, c'était des centaines de milliers de personnes pour la moitié de ce chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte un peu des effets de levier dont disposent des experts et des scientifiques ou des ingénieurs bien formés, et d'où le fait que, puisque ça a de la valeur, il y a un trafic des talents absolument incroyable. Il y a des sites qui font du talent traffic dans la Silicon Valley, c'est extraordinaire, et les salaires évidemment sont démultipliés. Il y a là quelque chose d'assez fascinant et de redoutable en même temps, c'est que on parle beaucoup de polarisation du marché du travail, c'est-à-dire les emplois à haute valeur ajoutée d'un côté, les emplois faiblement qualifiés au milieu tout s'effondre. Mais là, on peut parler aussi de polarisation de la connaissance et même de la conscience des problèmes que créent ces outils-là. C'est un vrai sujet et effectivement, il appelle une sorte de comité de vigilance internationale ou mondiale, mais dont chacun doit s'équiper d'une certaine manière. C'est peut-être un des messages aussi d'un colloque comme celui que nous avions organisé avec mon collègue Simon Peille. Et c'est quelque chose qui doit être de salut public. Mais vous voyez bien aussi à quel point c'est difficile parce que la vitesse des innovations est tellement grande et la variété des usages possibles fait tellement coexister des choses fascinantes où on se dit le progrès de l'humanité, l'opération à distance, etc., etc. Et de l'autre côté, les petites affaires du marché. Voilà. Et j'en parlais il y a deux jours avec la responsable, la nouvelle responsable du digital chez Carrefour. Carrefour est une entreprise qui a raté le virage de l'entreprise numérique et qui se trouve maintenant éventuellement concurrencée par Amazon et qui est totalement, qui me dit, j'ai affaire à un monde dans l'entreprise Carrefour qui est démuni, qui n'a aucune expérience de ça. Amazon a grandi dans ça et Amazon s'est développé à travers, ce sont des digital natives. Vous pouvez distribuer les gens maintenant, littéralement, autour de ces dimensions-là. Et pas simplement d'une sorte d'idée de ce qu'est le digital, mais de la compétence. Et là, on a affaire à des écarts de connaissances énormes.
Alors, l'un des grands intérêts de ce livre collectif, c'est que, outre de poser ces grandes questions politiques, juridiques et de nous interroger comme citoyens, il nous offre aussi l'occasion de mieux comprendre en détail certaines situations particulières qui sont observées par des contributeurs du livre, Pierre-Michel Menger.
Oui, par exemple, il y a un travail sur le logiciel d'open source R qui est fait par Éric Dagiral et Sylvain Parasi, et il montre à quel point on a bénéficié à la fois de l'inventivité des informaticiens qui sont sortis du cadre classique un peu académique ou bien de techniciens supérieurs, etc., et qui ont pris en main des activités et qui ont reconfigurer progressivement le travail. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des activités qui autrefois paraissaient totalement secondaires ou ancillaires ou techniques et qui aujourd'hui ont une promotion en quelque sorte à la fois économique et scientifique considérable. Voilà là une des manières de faire et une des questions qui est posée, c'est qu'est-ce qui a été déplacé au fond dans la carte des compétences et de la valeur des métiers. Et il faut aller regarder de près comment ça fonctionne. Une autre contribution, c'était évidemment celle de Franck Cauchois et Jean-Sébastien Vert sur qu'est-ce que les entreprises aujourd'hui extraient de ces données et qui peut leur procurer un moyen de faire mieux que le marketing classique. Alors, les exemples sont à la fois vertigineux et en même temps, on voit bien qu'il y a une filiation. D'une manière assez extraordinaire, la recherche scientifique est un exemple pur et parfait de big data. Tout ce que je fais comme recherche a intérêt à être public. Et à travers mes publications, à travers les données que j'engendre dans mes publications. Et à partir du moment où on peut mesurer la production des individus par ce qu'on appelle la scientométrie ou la bibliométrie, combien avez-vous publié d'articles, quel est leur impact, quelle est leur audience, etc., vous déclenchez évidemment tout un appareillage depuis la fin des années 50. Ça a été créé, un appareillage de connaissances sur ce que vous faites et sur ce que font d'autres. Un jour, je reçois un mail d'une société éditrice de revues qui m'écrit: Monsieur, nous avons analysé vos réseaux de co-auteurs, nous pensons, et vos équipes de recherche, nous pensons que vous pourriez modifier votre équipe en mettant celui-ci à la place de celui-là et vous gagneriez en productivité.
On se croirait dans un jeu vidéo de football. Enfin, vous êtes l'entraîneur.
C'est ce qu'on appelle la cybermetrics en sport. On analyse et on décompose l'ensemble des actes et on dit, voilà, quelle est l'optimisation possible. Et ça suppose une masse de recherches quand même et de données qui sont mises en œuvre pour arriver à ce genre de conseil qui est assez incroyable, que le conseil vaille quelque chose ou rien, le simple fait qu'il existe. Et évidemment, ça a déclenché ensuite des opérations de, bon, alors, est-ce que vous êtes productif ou non? Est-ce que vous méritez une promotion ou non? Alors, tout le monde dans la communauté universitaire dira, mais on sait bien que ça n'est pas le seul critère. Mais quand même, tout le monde regarde aussi ça d'un coin de l'œil. Et puis, les classements sont fondés sur ça aujourd'hui. Toute l'industrie des classements universitaires qui déclenche tellement d'émotions et en même temps d'innovations administratives et managériales se nourrit de ça. Et il faut aller regarder comment ça fonctionne. Et David Ponty, et Didier Torny font le travail de montrer quelle est, au fond, l'invention de ces méthodes et qu'est-ce qu'elles ont produit.
est parfois inventé dans un tout petit bureau. Il y a quelques semaines ici, Bruno Latour racontait comment il avait rencontré à Shanghai le type qui a mis au point ses classements d'université et comment il lui avait dit « Monsieur, vous nous avez pourri la vie ». Au fond, dans ce tout petit bureau d'une université, quelqu'un peut mettre au point une technique, une procédure qui va avoir des effets considérables.
C'est des effets de levier. C'est des effets de levier gigantesques avec des idées et une technologie qui a une capacité de capter évidemment une masse considérable de données. Ensuite, il vous faut une crédibilité. Mais si vous détenez une masse considérable de données, maintenant j'ai des collègues qui publient des articles, ce sont des sociologues, mais ça peut être aussi des ingénieurs statisticiens ou des physiciens reconvertis vers la science sociale qui disent « Nous avons analysé une nouvelle base de données qui fait 15 millions de données de primaires et donc nous faisons mieux que les 8 millions d'avant. » Vous vous rendez compte du monde dans lequel on est passé tout d'un coup, et ce sont des statistiques qui sont très intéressantes aussi. À certains égards, c'est fascinant. Raichetti, en Californie, à Berkeley, ou à Stanford, je ne sais plus, je crois que c'est à Berkeley, il fait des recherches fantastiques sur les inégalités devant l'école avec des données qui sont issues de sources administratives qui autrefois étaient inaccessibles.
Mais on ne peut pas s'empêcher quand même, quand on a une formation en sciences sociales, de se poser la question de la manière dont ces données sont produites, de la question des codages, parce que, prenez un exemple que vous connaissez bien, la bibliométrie des publications scientifiques. Bon, comment on décide qu'un article publié ici a la même valeur qu'un article publié là? Comment on homogénéise tout ça? Donc, est-ce que l'une des tâches des sciences sociales, c'est pas de continuer en permanence à porter ce regard critique en portant l'héritage des méthodes des sciences sociales sur la façon dont sont constituées les entités sur la base desquelles on va produire ces ensembles gigantesques de données qui ont tant d'effets aujourd'hui?
Vous avez absolument raison. Le jeu consiste à être toujours, avoir une double attitude. Premièrement, bénéficier d'effets d'innovation qui sont incontestables. L'accès aux données permet de mesurer, de préciser, de quantifier beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire autrefois. Et à certains égards, quand on s'en sert, par exemple, dans le monde de hospitalier, dans la médecine, pour faire de la médecine prédictive, c'est évidemment extraordinairement utile. Aujourd'hui, quand vous entrez dans un hôpital en Suisse, vous consentez, sauf si vous refusez explicitement, vous consentez à ce que votre ADN soit déchiffré, parce que ça a des vertus pour l'analyse des maladies, etc., etc. Alors, ça, c'est un des côtés. L'autre côté, c'est évidemment l'opacité et l'asymétrie d'information. Ce sont des choses qu'il faut absolument faire reculer. Le propre de la science sociale, c'est de dévoiler ce qui est caché et c'est de surtout mettre en avant les phénomènes de concentration de pouvoir qui reposent sur des asymétries d'information, sur des inégalités de capacité de manier des données, de manier des bases et d'extraire de la valeur de ceux qui y consentent sans le savoir et pour qu'on les persuade de faire autre chose. Donc, il y a une attitude qui est volontairement évidemment et positivement critique et a fortiori sur les outils qui nous intéressent, nous, dans notre activité.
Alors ça c'est la dernière partie de l'ouvrage qui se pose la question de que faire de ces big data quand on veut faire de la science sociale. Voilà. Comment les utiliser, dans quelle mesure ça peut ouvrir des perspectives de recherche radicalement nouvelles.
Jean-Samuel Beuscar, qui dirige le laboratoire d'Orange Lab qui est consacré à ces données, c'est un laboratoire d'une entreprise privée, c'est intéressant de voir que des contributeurs viennent maintenant et il a effectivement accès à des masses de données gigantesques, mais lui-même prêche, enfin il est le premier à défendre la vigilance épistémologique, comme on dit, à l'égard de l'utilisation de ces données et de montrer aussi que ce qu'on croit être un monde horizontal où tout le monde échange avec tout le monde sur tous les plans et les réseaux sociaux, etc., etc., en fait ce monde horizontal cache de considérables différences d'activités. Par exemple, quand vous évaluez un film, qui fait ça? On pense que tout le monde peut avoir accès à une sorte de démocratie de l'opinion et de l'évaluation qui est universellement répandue. En fait, c'est 20% des gens qui font 80% des évaluations. C'est une loi de puissance et c'est quelque chose qui est totalement méconnu par les gens. Chacun pense que la démocratie, c'est une tête, une voix, un vote, une évaluation, une opinion, un jugement et une qualité. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un océan de différences et d'inégalités qui se situe derrière tout ça et qu'on peut reconstituer. Donc, l'analyse fine de ces données montre tout ça et elle montre aussi à quel point il peut y avoir des opérations de construction des données qui agissent sur leur utilisation. C'est tout le problème de la structuration ou la non-structuration des données. Il y a aussi un papier dans le livre, un article qui montre à quel point, quand on dit « open data », l'administration dit « j'ouvre mes données » et Voilà, c'est le nouvel Eldorado pour tout le monde. En fait, il y a toutes sortes d'opérations qui vont être faites sur ces données de base, brutes, pour qu'elles soient transformables et communicables. Mais ces opérations, elles ont peut-être filtré, purgé et éventuellement formaté d'une manière qui n'est pas entièrement lisible. Et c'est intéressant de suivre ce travail de construction ou de brutification des données, comme ils le disent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe exactement quand on croit qu'il suffit de poser ces outils sur le gisement? La comparaison avec la mine est parfaite. Vous avez un gisement de charbon, vous allez l'extraire et hop, ça y est, tout va bien. Non. Il y a toutes sortes d'opérations intermédiaires qui sont faites et auxquelles les individus ont eu, dont ils ont plus ou moins l'idée.
Alors, les sciences sociales avaient l'habitude d'être dans cette attitude critique par rapport à la statistique publique, parce que, après tout, raffiner les données, ça se fait aussi avec les données de l'INSEE, par exemple. Mais il y a des gens comme Alain Desrosières nous ont appris cela, un regard en permanence critique à porter sur toutes ces procédures, toutes ces opérations, pour pouvoir faire en sorte que ça produise des résultats scientifiques intéressants. Aujourd'hui, on a le sentiment que les sciences sociales peuvent bénéficier de certains ensembles de données, à condition de savoir toujours porter ce regard critique. Et on voit peu d'exemples qui remettraient les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au fond, ce seraient des enquêtes de sciences sociales qui seraient à l'origine de la production de données. On a l'impression que les sciences sociales arrivent dans un second temps. Alors, elles décident ou pas d'exploiter des ensembles de données qui sont produites pour des raisons économiques en général, par des acteurs ou par des administrations. Mais est-ce que vous croyez possible de renverser la relation et d'entamer des grands programmes de recherche qui partiraient au fond d'hypothèses et qui redonneraient une logique hypothético-déductive et pas seulement d'induction en quelque sorte ?
Alors oui, il y a deux aspects importants. Premièrement, vous venez de lâcher le mot induction. C'est vrai que à travers ces données, il y a une sorte de résurrection d'un vieux schéma qui est de dire nous n'avons pas d'hypothèse a priori, nous allons laisser les données se décanter et nous suggérer des hypothèses pour les interroger nous-mêmes après les avoir fait parler. Et le machine learning fonctionne comme ça. Personne ne sait d'ailleurs très bien comment le machine learning fonctionne au juste et comment les ordinateurs apprennent à se servir de ça et à induire des hypothèses. Ça peut être un bénéfice et la science avance comme ça aussi par l'induction. Ensuite, est-ce que ça disqualifie l'enquête, la bonne enquête bien constituée, bien construite? Je ne crois pas du tout parce que toutes ces données considérables sur les individus sont des données qui vont aussi à la surface des comportements et qui ne peuvent pas capturer la totalité de ce que peut être un individu et de la manière dont il réagit à travers ses caractéristiques, ses opinions, etc. Vous ne pouvez pas reconstituer complètement l'individu. Là, l'enquête est irremplaçable. Quand vous allez interroger les gens sur leur comportement matrimonial, etc., alors vous direz « oui, on sait que les sites de rencontres sont plus performants pour associer les gens durablement et éviter les divorces que les rencontres personnelles. » Mais ça ne vous dit rien sur qu'est-ce qui s'est passé au juste, etc., comment les rencontres se constituent. Et là, les enquêtes sont absolument irremplaçables. Tout ce qu'on appelle « assertive mating » ou « matching », c'est-à-dire les rencontres d'appariement, il faut les étudier avec des données beaucoup plus fines et beaucoup mieux spécifiées.
C'est pas demain la veille, donc l'ethnographie sera écrasée, en tous les cas, par ces big data. Les big data, souvent, on les rencontre à travers des représentations graphiques. Quand on n'est pas un spécialiste, on les croise au détour de pages de magazines, sur des affiches. Et c'est cet aspect de visualisation dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission. Ce sera après un extrait de Miami, le nouvel album de Baxter Dury.
Goodbye. Everybody loves to say goodbye. suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Big data, on parle des données aujourd'hui à la suite dans les idées. On en parle avec Pierre-Michel Menguer qui co-dirige avec Simon Paille Big data et traçabilité numérique, un livre passionnant sur cette nouvelle réalité encore largement opaque et massive. Et on en parle aussi avec David Bianic. Bonjour.
Bonjour Simon.
Vous êtes designer, vous êtes à la fois artiste et chercheur puisque vous êtes designer dans une agence que vous avez créé qui s'appelle FX Design Studio. Et puis, vous êtes également maître de conférence à l'Université Paris 1. Vous êtes rattaché à une équipe qui travaille sur l'art de façon générale et sur le design. Et je le disais, on rencontre souvent les big data, quand on n'est pas un spécialiste, à travers des représentations graphiques. Et ce n'est pas une question nouvelle. On va y revenir d'ailleurs à cette histoire des représentations graphiques. Mais aujourd'hui, elle se pose, j'imagine, différemment. C'est-à-dire que l'ampleur, la taille de ces données, mais aussi la possibilité d'utiliser des outils numériques pour les visualiser, ont transformé, bouleversé ce qu'on appelle le design d'information, David Bianic.
Absolument. Le design de données a une contribution certaine sur ce problème qui a été évoqué, ou ce symptôme du big data. Une contribution certaine, mais certainement modeste aussi, parce qu'en réalité, il essaie, tant bien que mal, d'offrir une sorte de fenêtre de traitement de ces amas et de ces ensembles de données. En réalité, la visualisation de données peut permettre de comprendre un certain nombre de faits et phénomènes qui peuvent être traduits graphiquement. Mais les problématiques sont nombreuses parce que les modèles n'existent pas, enfin les modèles efficaces n'existent pas, il faut les inventer. Donc toute la tâche du design, mais pas seulement du design, puisqu'il travaille avec l'informatique, avec les sciences cognitives, avec beaucoup de disciplines, tout le travail du design, c'est d'essayer de mettre en place des formalismes nouveaux, on dit idiomatique, de représentation de données, qui peuvent rendre compte de ces amas de données, de ces flux de données, de ces ensembles de données qui sont aujourd'hui massifs. Donc alors, la tâche est complexe.
On a à notre disposition des formes classiques, des représentations d'histogrammes, de camembert, des choses vraiment très très, très simples, oui, qui continuent d'être pertinentes et on en a besoin. Mais on a la possibilité aujourd'hui, avec les outils numériques, d'inventer, et j'imagine que c'est absolument passionnant pour un designer, d'autres formes, voire des formes en mouvement, des formes en trois dimensions.
Absolument. En fait, tout le travail consiste à la fois hériter de ce qui existe, donc des modèles qui ont été mis en place depuis très longtemps déjà, depuis au moins le 19e siècle et bien avant. Si on remonte dans l'histoire de la présentation de données, on peut remonter sur une histoire qui est multiséculaire. Mais en réalité, on a un acquis, on a un héritage qui est assez encore opérant pour une part. Mais pour toutes ces données innombrables en quantité dont on a parlé en début d'émission, il est vrai qu'il faut en général inventer de nouveaux modèles, de nouveaux formalismes. Ça veut dire que parfois ça consiste à transformer ceux qui sont déjà existants, c'est-à-dire à les doter de capacités de langage graphique qui sont plus étoffées. Et puis parfois, il faut partir from scratch, comme on dit dans le domaine informatique, c'est-à-dire de rien, et se projeter vers la constitution de formalismes radicalement en rupture, nouveaux, pour mettre en exergue des réalités qui étaient jusqu'alors difficiles à mettre en visibilité. Des flux, des transactions importantes de données, des congestions de données, c'est-à-dire finalement des quantités de données qui se voient amassées, qui se voient contraintes à certains moments, dans certains domaines, etc. Donc finalement, les modèles sans cesse doivent être remis en chantier et en travail.
Mais à quel moment vous intervenez? Est-ce que vous êtes parfois sollicité très en amont par ces gens qui mettent au point les systèmes de récupération, de captation en fait des informations qui les intéresse pour les agréger par la suite, ou est-ce que on fait appel à vous dans une relation un peu ancienne au design, c'est-à-dire le designer c'est celui qui arrive après pour mettre tout ça en forme, quoi.
Et oui, c'est encore un peu le cas, mais on peut espérer que les choses bougent, elles bougent dans le bon sens et dans la bonne direction. Effectivement, on est de plus en plus sollicité très en amont, ce qui veut dire qu'on travaille avec les équipes techniques, les équipes d'ingénieurs, pour pouvoir justement d'informaticiens, pour pouvoir justement travailler à la matière même, au langage même graphique, mais aussi algorithmique qui va permettre de supporter ces ensembles. Vous l'avez dit, ces représentations sont interactives, elles sont animées, elles impliquent la sollicitation des utilisateurs, des participants. Elles supposent d'eux qu'ils soient aussi en forage de données aussi, c'est-à-dire en exploration dans ces ensembles. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Et il est évident que le design doit arriver très tôt dans cette réflexion. S'il n'est là que pour donner un coup de pinceau ou quelques agréments, quelques améliorations graphiques, alors il n'a pas fait le travail qu'il doit faire, il est évident.
Pierre-Michel Menguer, vous qui êtes un sociologue du travail créateur, oui, là il y a des créations.
Absolument, oui. C'est un monde fascinant, la visualisation des données, parce que c'est un outil de réduction de complexité et c'est un outil de recherche de patterns et c'est un outil d'optimisation du travail aussi. aussi. Un de mes souvenirs assez magiques, c'était d'une visite chez Dassault Systèmes où j'allais faire une conférence et on a présenté une maquette en 3D qui permettait à tous les sous-traitants du monde entier de se coordonner en temps réel sur les transformations possibles de chaque pièce et de recalculer tout. Et Dassault Systèmes fabrique des tas de logiciels qui ont des applications. C'était à la fois de la visualisation et c'était de l'outillage industriel classique. C'est un mélange des deux. Donc, on voyait une hybridation de ce genre. Quand je vois des articles de revues scientifiques comme Nature ou Science, vous avez des graphiques qui condensent en eux-mêmes une masse gigantesque d'informations qui prendraient des tableaux et des tableaux pour être présentés. Or, les lecteurs ont besoin d'aller vite. L'attention est un bien rare et la compétition entre les multiples articles publiés chaque jour est considérable. Donc, l'outil graphique est absolument essentiel pour procurer de la visibilité et éveiller l'attention à être une sorte de point saillant qui va déclencher ensuite d'autres opérations. Mais c'est fantastique et c'est un, et en même temps, ça produit des patterns, des structures qui émergent. Et ça, je pense que c'est aussi dans l'interactivité, c'est très essentiel. C'est là qu'évidemment le design graphique de ces données peut jouer un rôle dans la recherche elle-même parce qu'il va y avoir une collaboration. Les patterns émergent comme ça et c'est la nature inductive de la connaissance à laquelle contribue directement la visualisation.
Alors, c'est pas nouveau non plus. Et d'ailleurs, je crois, David Biani, que vous allez intervenir dans des manifestations qui vont avoir lieu autour d'une exposition qui va rendre hommage à Jacques Bertin, qui est une figure importante autour de ces questions de visualisation des données. Jacques Bertin s'occupait d'un laboratoire de graphique à l'École des hautes études en sciences sociales et on fête les 50 ans d'un livre dont il est l'auteur, qui est un livre important dans l'histoire des techniques de visualisation. C'est quelqu'un qui était à la fois un sémioticien et en même temps un spécialiste de sciences sociales et de graphique. Ils ne sont pas si nombreux, les gens qui sont à l'interface de cette dimension visuelle, artistique, on peut dire, et puis scientifique du côté des sciences sociales.
C'est juste, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont apporté beaucoup à la compréhension et connaissance de ce domaine. On peut évidemment compter sur Bertin, ça a été un apport considérable dans la compréhension de l'instrumentation graphique, dans son maniement, dans ce que ça implique en termes de réception. Finalement, décomposer tout ce travail graphique et arriver à comprendre comment ces mécanismes se mettent en place, comment le sens s'élabore et comment les concepteurs peuvent justement astucieusement utiliser ces matériaux. Le travail de Bertin a été repris par d'autres communautés et d'autres scientifiques. Je pense à McKinley, je pense à Cleveland, McGill, des gens de l'informatique aux États-Unis qui ont en fait vu très tôt, peut-être même avant qu'on le fasse nous-mêmes, la pertinence et l'importance du travail de Bertin pour justement mettre au jour tous ces mécanismes qui permettent aujourd'hui, puisqu'ils sont repris, de perfectionner les technologies d'aujourd'hui sur les visualisations de données. Donc c'est un apport qui a été considérable.
Alors Jacques Bertin, une exposition va lui être consacrée, elle ouvre dans quelques jours, le 14 novembre, à l'École des études en sciences sociales, à la Maison des sciences de l'homme. Il y aura une journée d'études le 21, je crois. On mettra les informations sur le site de l'émission. Vous rappelez de ça, Pierre-Michel Maguire, vous qui avez été dans cette maison et...
Absolument. Il y a une mémoire des travaux de Jacques Bertin, du livre que vous avez cité de Jacques Bertin. Tout étudiant qui avançait dans les études, à un moment donné, inévitablement, avait le livre de Jacques Bertin sur son bureau, à la fois pour comprendre ce que l'intelligence graphique, d'autres en ont parlé, Jack Goody, etc., et en même temps pour savoir à quel point c'est une opération de construction et d'intelligence et de réduction de complexité et de un des problèmes dans les opérations, j'ai cité les 4V, vélocité, volume, variété, etc., mais il y a aussi véracité. Qu'est-ce que c'est que la véracité ? Et le traitement graphique de l'information doit respecter des protocoles stricts pour être à la hauteur d'une exigence de vérité et ne pas manipuler les données de manière graphique qui distorde l'information qui est contenue. Ça, c'est une opération qui est beaucoup plus complexe qu'on ne pense et qui doit être contrôlée de part en part. Et là, l'intelligence graphique est décisive.
Et les exigences ne sont pas du tout les mêmes entre l'univers scientifique qui va être très attaché à cette véracité et puis l'univers des médias, par exemple, qui va vouloir produire des graphiques spectaculaires, quitte à distordre les données. Et on n'a pas parlé du journalisme pour l'instant, mais le journalisme est aussi l'un des terrains où ces big data jouent un rôle avec désir de ce qu'on appelle le data journalisme, qui est fait parfois de manière un peu sauvage, tant du point de vue de la méthode des sciences sociales que des les représentations graphiques qu'on nous donne à voir, David Bianic.
Oui, c'est vrai qu'il y a, beaucoup d'expérimentations très diverses. Elles existent en nombre aux États-Unis. Ils ont été certainement les premiers à consacrer une, un intérêt particulier à ces développements. On a des choses intéressantes au New York Times Lab, avec des gens comme Yertorp, par exemple, qui a fait une résidence en 2011 et qui avait développé des systèmes qui permettaient de voir comment la lecture d'un article, par exemple, était relayée, redondée sur les réseaux sociaux et donc discutée par ailleurs. Donc on avait des visualisations de graphes qui permettaient d'entrevoir les suites, finalement, de ces publications. Il y a beaucoup d'expérimentations très diverses. Il est vrai qu'elles sont assez peu cadrées. Elles sont de qualité très inégale. Mais il y a quand même une évidence qui apparaît, c'est que beaucoup de choses, beaucoup de faits, beaucoup de réalités apparaissent avec une certaine puissance par l'image. Et donc, il faut trouver à essayer de ménager les bons outils, les bonnes manières de les présenter et d'y associer aussi les commentaires et les analyses nécessaires.
Et l'un des enjeux, c'est de faire travailler ensemble des gens qui ont peut-être encore tendance à être dans des institutions séparées les unes des autres, et notamment en fait à relier la sphère artistique et la sphère scientifique.
C'est vrai qu'ils s'ignorent pour une part, mais du coup, qui trouvent là une occasion formidable de pouvoir collaborer, apprendre et élaborer des choses qui effectivement ont des qualités nouvelles. Les équipes en France et à l'étranger qui tentent justement d'intégrer le design dans le milieu du journalisme le font avec beaucoup d'improvisation, mais on sent progressivement, y compris en France, que les résultats sont de plus en plus probants et que la place de la graphique commence à s'installer.
Et qu'en est-il de l'intérêt pour l'aspect scientifique, pour les sciences sociales, dans des lieux qui sont davantage des lieux de formation artistique? Vous êtes lié aussi à une équipe de recherche aux Arts Déco, à l'ENSAD, où on a là une tradition graphique très très ancienne, mais une attention aussi aux nouvelles technologies, je pense, très forte. Que se passe-t-il dans ce genre de lieu? Est-ce qu'il y a un appétit pour le dialogue également?
C'est vrai, cette école intègre aujourd'hui la recherche comme beaucoup d'écoles d'art et design, comme toutes les écoles d'art et design quasiment en France aujourd'hui, et à l'étranger aussi. Et donc elle s'ouvre à des collaborations nouvelles, à des thématiques nouvelles, et elle donne aussi l'occasion aux artistes et aux designers enseignants et étudiants de pouvoir participer de dynamiques de recherche nouvelles pour eux. Et on en parlait tout à l'heure sur la place de l'induction, il y a aussi une volonté de ces écoles d'essayer de trouver la manière de faire de la recherche, c'est une question importante aujourd'hui. Regarder, travailler les projets et faire en sorte que par une démarche un peu inductive, on y trouve matière à construction de la connaissance, c'est-à-dire par un effet de généralisation, de montée en généralité à partir des projets qui sont la base de ces réflexions.
Pierre-Michel Menger.
Je dois dire que cette affaire des données suggère une dimension que vous venez d'évoquer, c'est que les acteurs qui produisent du savoir et différents types de savoir sont extraordinairement divers. Alors la diversité a à la fois des vertus heuristiques fantastiques, elle crée de nouveaux savoirs, de nouvelles hypothèses, une décontraction plus grande à l'égard de certaines traditions, et en même temps évidemment il faut trier. Et c'est ce jeu-là qui est complexe, les journalistes sont des grands manieurs de données et ils produisent des savoirs, les spécialistes de marketing qui étaient autrefois la discipline un peu médiocre des business schools deviennent tout d'un coup des rois, et ils se mettent en cheville avec des statisticiens, les statisticiens eux-mêmes travaille avec des spécialistes de sciences sociales, etc., etc., ou avec des généticiens. Le croisement des savoirs est assez fascinant, il faut dire. Et là-dedans, il faut évidemment le scalpel de l'analyse pour dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Il y a une effervescence, une ébullition considérable, mais il faut évidemment pratiquer là le contrôle pour garder ce qu'il y a de meilleur. Les contrefactuels, l'expérimentation à travers le graphique doit être assez fascinante. Vous pourrez représenter la même chose de plusieurs manières et obtenir des résultats extraordinairement différents dans la perception qu'ont les individus de ces résultats. Ça, c'est assez fascinant.
Merci beaucoup, Pierre-Michel Menger. Je rappelle le titre de ce livre, Big Data, traçabilité numérique, que vous avez co-dirigé avec Simon Paye. On trouvera la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées sur franceculture.fr. Et puis, on trouvera un lien vers votre page, vos travaux, David Bianic, pour qu'on voit ce que vous produisez comme type de représentation graphique. On trouvera également les informations sur l'exposition consacrée à Jacques Bertin, la journée d'études, tout ça sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez également réécouter l'émission tant de fois qu'il vous plaira et puis vous abonner au podcast de la suite dans les idées. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la technique Philippe Mercher, à la réalisation Anne-Laure Chanel.
Et dans quelques instants, sur l'antenne de France Culture, vous retrouvez Christine Bernard.